18h Sport. Tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, vous êtes bien sur Attitude. Attitude, c'est votre radio en Charente, 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Et cette émission, c'est votre émission des sports. Chaque lundi, 19h15, 19h45, c'est Culture Sport, votre émission. Nous accueillons aujourd'hui donc un nouveau visage dans le panorama sportif charentais. On va vous le présenter tout d'abord et j'accueille d'abord Dédé, bonjour.
Salut à tous. Bonsoir Didier, bonsoir à l'invité du soir.
Donc nous accueillons Edouard Vandermes, coach de l'ACH. Edouard, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, enchanté.
Comme on se connaît pas, on va vous découvrir à travers cette émission donc qui va durer une trentaine de minutes. Edouard, on va revenir notamment sur votre biographie pour que ici on dans le département et voire dans le Poitou-Charentes on puisse notamment connaître la personne qui a donc pris en main cette saison le HAC.
C'est ça, l'ACH. Je suis Lillois. Donc je suis arrivé en Charente cet été pour la première fois. Je découvre cette région. Je suis arrivé pour le projet de l'ACH qui est de monter en division 2. Alors je vous présente l'ACH, c'est un club totalement féminin. On propose du handball féminin à haut niveau dans la Charente, le plus haut niveau. Et puis voilà, je suis là pour relever ce défi-là.
Vous venez donc, on a bien compris, vous venez du Mans. Quel a été votre parcours avant de venir notamment à la CH?
Bah écoutez, moi je suis rien à voir, j'ai fait des études de comptabilité au départ puisque j'avais des parents un peu réticents à partir dans le monde du sport, ce qui peut être compréhensible quand on est jeune puisque le monde de sport c'est des rencontres et c'est des opportunités. Et après mes diplômes obtenus, j'ai pu faire un peu vivre de ma passion et j'ai le club de Lille, donc je viens de Lille et qui m'a permis de me professionnaliser. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis professionnel. J'ai entraîné l'équipe de l'homme, pareil, en National 1, qui est la 3e division. Et voilà, je suis un enfant de ce club-là. Et l'année dernière, Evelyne, j'ai postulé spontanément à une offre de l'ACH pour monter en division 2. Et je voulais vivre un nouveau projet, une nouvelle aventure. Et me voici.
Vous jouiez dans une équipe masculine? Avant de venir notamment prendre en main l'équipe féminine qui est donc au plus haut niveau du département de la Charente.
Oui, j'ai joué. En fait, j'étais dans un club de Lille, c'est un club aussi féminin mais qui fait des garçons. J'ai joué au premier niveau régional qui est la pré-nationale, ça s'appelle. Donc c'est un niveau très correct, mais je viens d'une famille sportive avec un papa qui est entraîneur de foot. Lui au niveau
régional, oui, d'accord.
Et qui m'a transmis cette passion. Donc très vite j'ai voulu entraîner. J'étais très très tactique, très formation, très tout ça. Donc très vite j'ai entraîné très très jeune, à l'âge de 15 ans, bien sûr en bénévolement. Et donc maintenant j'en ai 30, donc ça fait 15 ans que j'entraîne, une petite dizaine d'années en professionnel. Voilà.
En 30 secondes, votre papa d'origine belge peut-être?
Pas du tout, on est du Nord. Après, c'est vrai que l'étymologie de notre nom, de notre famille, c'est plutôt flamand. C'est homme de foi, homme de messe, donc Vandermes, ouais, flamand. J'ai une racine belge, forcément, mais assez lointaine.
Très bien, donc le challenge qui vous est fixé pour cette saison 2023-2024, c'est donc monter, si j'ai bien compris, en division supérieure. Tout en sachant que vous réalisez avant au début de saison, puisque vous restez sur 2 matchs sans défaite les deux derniers matchs, bon, un petit peu plus compliqué d'entrée. On peut revenir un petit peu sur ces 4 matchs qui ont eu lieu.
Pas de souci. En effet, l'objectif est à moyen terme, donc on adorerait monter sur une saison. Moi, je suis là pour 2-3 saisons pour construire cette équipe, pour déjà la découvrir. Qu'elle me connaisse aussi, et en tout cas la remanier pour monter dès l'année prochaine. En tout cas, on va essayer de cette saison. En effet, on a eu un début de saison, on démarre bien avec 2 victoires. On a les petits bobos arrivent, les petites complications. On a un groupe pas élargi en nombre. En compétences, je suis satisfait, mais en nombre pas élargi. Ce qui nous a coûté un peu de matchs en termes sur l'aspect physique. Et là, on s'est relancé. Donc, on a un bilan de 4 victoires, 2 défaites. On est dans le,
c'est ça,
on
ça.
est, On est juste à l'affût derrière les premiers qu'on joue ce week-end, mais on est bien placé. Voilà, ça oui, les ambitions sont encore là.
Vous êtes pas très loin, hein. Vous avez 4 points de moins.
C'est ça, 4 points de moins. Après, c'est relatif au handball, puisqu'une victoire, c'est 3 points, une défaite, 1 point.
Voilà, c'est ça.
Ça reste quand même énorme, le 4 points, puisqu'il faudra bien sûr combattre ses adversaires directement, mais il faut qu'ils fassent aussi un faux pas. Après, on n'est qu'au début de la saison. Là, on est dans une période très difficile, puisqu'on enchaîne 6 matchs en 6 week-ends. Donc, on va voir le travail de fond qui a été fait cet été en début de saison. Donc, voilà, ça va être déterminant les prochains matchs.
Edouard, est-ce que vous avez analysé les forces et les faiblesses des équipes qui correspondent à la poule dans laquelle vous évoluez?
Complètement. Je suis un passionné et un amateur de ça, et deux, ça fait partie du boulot. C'est-à-dire, je passe beaucoup de temps, je dirais presque 50% de mon temps à faire beaucoup de vidéos. Exemple, on a joué La Roche le week-end dernier. Les 5 matchs qui sont obligatoirement mis sur une plateforme commune, ils sont analysés. À Bergerac, ils ont eux des petits soucis techniques, donc ils ont publié moins de matchs. C'est pas très cool, mais bon, on fait avec. Et je passe beaucoup de temps vidéo, je l'analyse finement, pour dire de l'aspect collectif à l'aspect individuel, de l'aspect même de l'arbitre, parce que chacun a ses sensibilités, donc on va essayer de s'adapter à tout ça pour optimiser les chances de performer.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre groupe? Quels ont été les mouvements à l'intersaison et quels ont été les recrues?
Un contexte un peu particulier, puisque j'ai signé très tard, pour être très transparent. J'étais pas un premier choix du club, j'étais un second choix. Donc en fait, le premier a, comme vous avez pu lire dans la presse, le premier a arrêté au dernier moment, c'est-à-dire dans la période de mercato. Moi, j'étais parti sur un autre projet, la chance que j'avais pas signé. Donc, je suis arrivé très tard, ce qui était un peu tendu sur le mercato pour moi. J'ai quand même fait venir Cornelia Ngueta qui vient de Bergerac. Justement, c'est l'équipe qu'on joue ce week-end. J'ai fait venir Claire de Bordeaux qui jouait au club de Rouen. Et j'ai fait venir Charlotte Gros, une du coin, puisqu'elle joue à Cognac. Ça, c'est les trois arrivées. En départ, on avait eu, il y avait une Hongroise qui était ici, il y avait une gardienne et une troisième qui est partie aussi à Cognac. Donc 3 pour 3, il n'y a pas eu beaucoup de changements, puisque comme je vous ai dit, je suis arrivé tard. Et puis mon objectif est vraiment d'analyser ce groupe, d'analyser cette structure, le contexte aussi de la poule, puisqu'on est dans une poule du Sud-Ouest. Ça fait des ronds de placement, mais que je connais pas, pour bien préparer les deux saisons à venir.
Oui, puisque en fin de compte, vous venez du Nord, et c'est vrai que là, vous vous retrouvez carrément à l'opposé, hein, sur les rencontres, Rochechouart, Côte Basque, Mios. Ouais, c'est des équipes que vous découvrez, vous également.
Complètement. Mon club, on était monté en Division 2. À l'époque de la division 2, j'étais pas entraîneur principal, j'étais qu'analyste vidéo, j'entraînais l'année d'avant, mais on connaissait la division 2 étant une poule unique, donc on allait un peu plus loin. Mais c'est vrai que le National 1, c'est un championnat très compliqué, puisqu'on a 4 poules séparées en 4 géographiquement, et le plus compliqué dans tout ça, c'est que sur les 4 poules, on a que 3 montées. Donc on peut gagner notre poule et ne pas monter en division 2. Ça, c'est la particularité de ça. C'est peut-être même dans tout sport confondu et dans tout championnat, en pourcentage de montée, un des pourcentages les plus faibles. Puisqu'on a 48 équipes, 49 équipes même, puisqu'il y a une poule à 13, pour 3 montées. Ça va être très dur.
Les 3 premiers ne montent pas systématiquement, si j'ai bien compris. Il va falloir il y aura un petit championnat. Comment ça va se dérouler?
Les deux meilleurs premiers montent directement. Donc, ils font un ratio du nombre de matchs joués avec le nombre de points.
Il y a le barrage.
Puisqu'il y a une poule à 13, et exactement entre le 3e et 4e, il y a un barrage aller-retour. Et le gagnant de ça passe en division 2. C'est un peu cruel de gagner sa poule et pas monter, mais aujourd'hui, c'est le fonctionnement. Je sais que la fédération y est attentif et va essayer de modifier ça dans les saisons à venir.
Au début de saison, je vois, il y a 188 buts que vous avez donc marqués et 166 encaissés. C'est homogène ou ça pêche un petit peu le plus?
C'est marrant que vous en parliez, parce qu'on en parlait ce matin avec des joueurs, juste en séance spécifique. Et j'en parlais aussi avec Lucille Bruxelles, qui est la responsable du pôle d'accession de Angoulême. Et en fait, elle est très vidéo et très statistique. On est la meilleure attaque du championnat actuellement. J'étais persuadé de ça en fille, elle me l'a confirmé aussi en garçon. C'est le plus souvent les meilleures défenses qui montent et pas les meilleures attaques. Donc je savais très bien que c'était pas un bon repère d'être la meilleure attaque. C'est plutôt un bon repère d'être la meilleure défense. Voilà. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, ça pêche un peu puisqu'on prend encore beaucoup, beaucoup de buts. Je suis très content de l'apport offensif, mais ça, il y a pas à le modifier. Mais faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts pour en prendre moins.
Vous êtes la deuxième défense du championnat.
Ouais.
La deuxième défense, en commençant par le 12e au classement.
C'est ça. Ah, j'ai pas regardé mon classement défensif. Vous me dites, je suis la deuxième, c'est-à-dire le but encaissé ou...
Non, en but encaissé, vous êtes avant-dernier.
D'accord, voilà, on est avant-dernier. Vous voyez ? Donc ça, c'est pas un bon repère.
Avant-dernier, enfin bon, il y en a deux derrière. Non. C'est pas... Voilà. Il y a Nantes qui est derrière vous, et puis il y a le dernier, Montluçon.
C'est l'objectif de travail.
Edouard, vous avez combien de gardiennes de disponibles pour l'effectif ?
Deux gardiennes, seulement deux gardiennes. On est une équipe 2 qui évolue au niveau pré-national. Donc aujourd'hui, le fonctionnement de notre structure, j'ai un groupe qui a 15, qui est fermé. Voilà. Demain, s'il y a des blessures, bien sûr qu'il y aura un appel dans l'équipe 2. Mais c'est pas une fille qui fait partie du groupe. Enfin, en tout cas, elle s'entraîne pas autant que les filles. Encore une fois, par opportunité, il y en avait pas et j'ai décidé de mettre un fonctionnement comme ça cette saison. Mais aujourd'hui, il y a deux filles, deux gardiennes dans le groupe.
Sur la feuille de match, il y a combien de joueurs, joueuses sur la feuille de match?
En national, on peut aligner 14 joueurs sur la feuille de match. 14 joueuses. Sur le terrain, on a 6 joueuses de champ plus une gardienne.
Vous avez le regard également. Alors, ça, on parle de l'équipe Fagnan, mais par exemple, sur l'équipe deuxième et troisième, est-ce que vous avez un regard également sur l'évolution d'abord de ces jeunes et puis, peut-être, piocher, si vous en avez l'utilité au cours de la saison, contre des joueurs, comme vous disiez tout à l'heure, de deuxième?
Complètement, ça fait partie aussi de mes missions. J'essaie de me dégager du temps pour avoir ce regard-là, cette analyse et cette structuration. On a la chance d'être dans le quartier de la Grand Fond à Angoulême, ce qui nous permet d'avoir une population très très variée et c'est vraiment riche. Puisqu'on a, là, je découvre les effectifs, on a des profils qui sont vraiment intéressants. Ce qui est plus dur, c'est les accompagner, pas que sur le terrain en termes de compétences d'entraîneur. C'est difficile de les accompagner aussi dans leur vie de tous les jours puisqu'on a des milieux sociaux qui sont un peu compliqués et ça demande de l'investissement. Donc là, on essaie vraiment de formaliser ça aussi, cet accompagnement-là. Voilà, on n'a pas d'équipe en championnat de France au niveau 18 ans dans la Charente. C'est un vrai objectif pour qu'on soit l'équipe Fagnan. On est l'équipe Fagnan, il faut qu'on soit l'équipe référente en Charente, donc c'est un vrai objectif aussi. Et bien sûr, en critère d'évaluation, c'est nos entrées, les entrées en structure. Là, on a une fille qui est rentrée en structure en pôle accession. Une, c'est très bien, mais c'est encore pas assez. Il faut qu'on travaille pour arriver à les faire rentrer en structure pôle d'accession et ensuite pôle excellence.
Je viens de regarder un petit peu le résumé du match qui vient donc de se dérouler, où vous vous imposez largement de 10 buts. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques satisfactions, notamment en ce qui concerne l'attaque.
On est très efficace en ce moment, on est très très efficace. Notre mot d'ordre, c'est vraiment la rigueur. On essaie vraiment de mettre de la rigueur du début à la fin de l'entraînement, du début à la fin de la semaine, puisqu'on sait que techniquement, la stabilité technique, c'est que la répétition. L'excellence, c'est ce qu'on fait de manière répétée. Et du coup, on a vraiment mis ça depuis 2 semaines et aujourd'hui, ça paye. Après, bien sûr qu'on sait qu'il y a des hauts et des bas. On va essayer de le maintenir. On va essayer même de le développer. Mais c'est une force. Je trouve pas qu'on tire plus qu'avant. En tout cas, on est plus efficace, en effet.
Oui, il y a 3 joueuses qui ressortent un petit peu de l'attaque. Il y a Grangy, il y a Ezekiel. Voilà, il y a des joueuses quand même qui sortent et qui plantent pas mal de buts.
Bon, on a une équipe d'expérience quand même. Clémence Grangy qui monte en division 2 avec Bègle, qui vient du Havre. On a Axel qui a joué à Brest, qui a fait quelques piges avec la D1 de Brest avec Laurent Bezois à l'époque. Donc c'est des filles qui ont connu ce monde professionnel, qui transmettent ça. Aujourd'hui, elles sont, leur carrière, le plus grand de leur carrière est derrière elles, mais elles s'investissent encore grandement en conciliant le le handball et puis leur boulot. C'est presque pour certaines remarquable puisque ça demande beaucoup d'investissement. Mais on essaie de elles profiter du niveau, moi profiter de leurs compétences pour qu'on s'y retrouve.
Édouard, est-ce que votre équipe est un bon mix entre joueuses d'expérience et jeunes talents ?
On a en tout cas jeunes potentiels en effet. Je sais pas vraiment le potentiel et le talent. Je sais pas si c'est ça ce que vous vouliez dire, puisque des fois, voilà, on a des joueuses talentueuses et qui arrivent pas là-haut et qui sont des pierres brutes. Là, en tout cas, on a des filles à potentiel, des jeunes joueuses qui ont des choses à faire. Elles essaient de mettre les moyens en face, c'est-à-dire s'entraîner, travailler en vidéo, travailler physiquement, travailler techniquement, tactiquement. Elles mettent vraiment ça en place, à moi de leur donner à manger, comme on dit. Et bien entourées par des filles qui ont vécu ce niveau D2, qui ont vécu un peu de D1, et qui apportent cette rigueur. J'avais un peu peur de ça, d'avoir une équipe qui soit sur la phase descendante, mais pas du tout. Elles sont encore très ambitieuses et c'est plaisant.
Est-ce que vous insistez dans vos causeries et dans le déroulement des matchs sur la notion de plaisir?
Complètement. Je prends toujours l'exemple bateau dans le monde du handball. L'exemple bateau de jouer une finale de championnat du monde, c'est cool. Donc c'est marrant, donc il y a pas d'histoire de, c'est pas parce qu'on monte de niveau ou d'exigence que on doit pas avoir de plaisir, ça reste un jeu. Et encore une fois, je joue n'importe quel match de Ligue des Champions, si on demande jouer une finale, bon, on se fera plaisir. Donc l'exigence n'est pas un frein au plaisir, complètement.
Les prochains matchs que vous allez donc jouer, on peut rappeler ces matchs-là, les trois voire quatre prochaines rencontres.
Mios qui est depuis qui s'est vraiment installé en N1, qui fait deuxième l'année dernière, qui fait aussi une belle prestation il y a 2 ans. C'est une équipe forte du championnat et ça reste dur. L'avantage c'est qu'on les reçoit, donc on reçoit 2 fois de suite. On a la chance d'avoir ça.
Ah oui.
Ensuite on ira, que je dise pas de bêtises, on ira à Bruguière dans la banlieue de Toulouse. Et oui. on a encore un de plus. On a Bruguière, Nantes et Zibero Tardes qui est dans les Pays Basques. Je connais pas bien la région encore, désolé, mais
c'est magnifique. Vous avez apprécié.
Donc on a encore 2 déplacements, plutôt des équipes bas de tableau, mais ça reste quand même un championnat homogène où on a vu que eux ils ont été capables de gagner à Sel, Bruguière, Suken a gagné à Montluçon. C'est vraiment dur. Et je pense qu'un championnat il gagne surtout dans les matchs indirects plus que les matchs directs. C'est ne pas perdre des points chez les petits surtout.
À propos de Sel, est-ce que c'est une équipe difficile à jouer?
C'est une équipe jeune puisque c'est un centre de formation. Mmh. Là, on a aujourd'hui dans notre pool, on a Nantes qui est en centre de formation, Mérignac et Celles-sur-Belle. Aujourd'hui, on a fait un match. C'était le premier match du championnat. Le spectre de ce match, c'était on a plus 11, donc on mène de 11 buts et on gagne que de 3 buts parce que on a laissé, on a descendu un peu d'intensité et ces filles-là, c'est des jeunes qui courent. Donc forcément, ça va très très vite. Donc on s'est servi de ça pour pas, parce qu'on savait très bien que toutes les équipes allaient voir la vidéo pour bien travailler et puis avoir ces moments faibles quoi. Ces temps faibles de bien les régler, de serrer les fesses comme on dit.
Vous parliez de temps fort et temps faible. Quels sont les, si vous pouvez dresser un tout premier constat après quelques matchs d'ouverture, quelles sont les forces et les faiblesses de votre équipe, Édouard?
Aujourd'hui, on a vraiment du talent offensivement. La capacité à marquer, elle est évidente. Moi, c'est les premiers matchs de préparation, j'ai douté de ça et j'étais très rassuré. Le problème, c'est l'instabilité dans dès qu'il y a une petite pierre qui bouge, on se met vite en crise. C'est-à-dire, il y a plus rien qui va. Faut qu'on trouve des solutions, alors qu'il faut qu'on se fasse confiance, faut qu'on soit sûr de nos forces. Donc il y a plutôt cet aspect mental. Je pense pas que ce soit l'aspect physique puisqu'on s'est bien préparé et aujourd'hui j'ai pas de gros bobos aussi, c'est un bon repère. Mais c'est plutôt cet aspect mental qui est faible dans la stabilité. Là on y travaille depuis 3 semaines déjà sur se dire que on est une bonne équipe, on a nos forces et arrêter de s'adapter à l'adversaire et beaucoup plus s'imposer.
Quand on analyse bien ce début de championnat après 6 matchs, on s'aperçoit que vous êtes quand même la meilleure équipe, hein. Offensive avec 188 buts, Bergerac un petit peu moins, ils ont 169 buts, mais c'est vrai qu'après en défense c'est là où peut-être que, enfin moi j'analyse de mon côté, hein, je pense que au niveau de la défense c'est peut-être, on en parlait tout à l'heure, le point faible de la CH.
C'est ça, après, c'est ça. On a les deux matchs où on perd, on prend quand même beaucoup de buts.
Oui.
On va remettre, remettant le contexte des matchs où on perd, on perd Côte Basque chez nous, qui nous a vraiment affecté puisqu'on s'en veut, on a déjoué, on perd 6-1 au début du match, on revient de l'enfer, on arrive à repasser devant sur ce match-là à 4 buts. Et moi, le premier, je m'en veux puisque je pensais que le plus dur avait été fait. Ah. Sauf que le match jusqu'au bout, c'est, alors tout le monde va me dire, hein, oui, un match c'est jusqu'à la dernière minute. Mais c'est vrai que quand on est dans le contexte, l'énergie qu'on a mis, moi, j'ai mis beaucoup d'énergie sur ce match, j'ai ce souvenir là. Et en voyant en vidéo, à la fin, on a craqué, on a justement pas été efficace. On a loupé des buts, des immanquables qui ont permis de rattraper et passer devant pour elle. On avait pris 33 buts, sur ce match, qui était énorme. Le second, c'est à Rochechouart, un contexte aussi particulier, puisque c'est une salle où la colle est interdite. Ça c'était ce qui faisait vraiment peur aux filles de jouer sans colle, puisque c'est un outil qui est indispensable à haut niveau, hein, qui est indispensable. Ouais. Mais il y a de plus en plus de municipalités qui l'interdisent. Et donc on appréhendait beaucoup ça, on n'a pas su surmonter ça. Et du coup, en statistique, on a 15 tirs hors cadre. Sans parler des arrêts et de tout ça, mais 15 tirs hors cadre, c'est la plus grosse stat que j'ai jamais eue en tant qu'entraîneur. Voilà. 15 tirs hors cadre. Donc, l'avantage, c'est qu'on sait où on a pêché. Donc, on a pu savoir travailler, on n'a pas de remise en question de fond, il n'y a pas de souci. On sait où on a pêché. Donc, du coup, c'est des matchs, en plus, où on a pris beaucoup, beaucoup de buts. Voilà. On y travaille. En défense placée, on est très bien. C'est surtout sur le repli défensif. On manque d'efforts de course là-dessus.
Pour revenir à la salle, on a bien compris que 15 joueuses aujourd'hui, c'est limite. Donc, et on vous souhaite évidemment de monter en division supérieure, faudrait peut-être donc avoir des recrues sur quel au milieu défense.
En effet, il faudra des recrues puisqu'aujourd'hui les filles sont pas professionnelles. Il y a des filles qui sont pas professionnalisables.
Oui.
J'appelle ça, c'est-à-dire qu'elles sont pas capables de mettre plus de moyens en face, alors que l'exigence du niveau la demande. Donc voilà. Bien sûr qu'il faudra une troisième gardienne, il faudra une troisième fille à chaque poste. C'est sur ces aspects-là qu'il faut recruter, enfin sur ces postes-là. Il y a à moi de déterminer aussi les ressources que j'ai au club, parce qu'on va pas recruter pour recruter. Aujourd'hui, un exemple, on a une jeune qui est en 18, Shirley, qui s'entraîne toute la semaine avec nous, qui ne peut pas jouer à part l'âge, mais qui par son investissement, numéro un, deux, par le mérite, et ensuite par la compétence, rentrera naturellement dans le groupe l'année prochaine. Voilà. Donc à moi de regarder les ressources au club, de voir en fonction de ça et les intégrer officiellement dans ce groupe et bien sûr l'élargir en compétences, en professionnalisme et en nombre.
Et on a bien compris que le projet est sur 3 années, projet sur 3 ans. Donc si la montée se fait, vous êtes preneur évidemment, mais autrement c'est sur 3 ans, si on a bien résumé le projet dont vous êtes venu.
Moi c'est ça, je vais pas nous descendre, mais je vais pas non plus nous surévaluer. Aujourd'hui, il y a un groupe compétent pour monter en D2, mais c'est pas suffisant de juste mettre des joueuses sur un terrain les meilleurs à ce moment-là. Faut être constant. Là, dans tous les sports, par contre, ça, je le fais dans tous les sports, c'est vraiment l'équipe la plus constante qui gagne les championnats et pas la meilleure. On a des équipes qui sont bons dans des périodes et qui perdent complètement de points. Et aujourd'hui, cette constance, on peut pas la avoir puisqu'on manque de nombre. Donc voilà. On va étoffer ça pour essayer d'y répondre à cette constance et monter la saison d'après. Après, rien n'est fermé aujourd'hui. On va tout faire pour gagner ce week-end. Et si le wagon est à prendre, on le prend avec plaisir.
Est-ce que comme au foot, Edouard, il y a des possibilités de mercato à l'intersaison ou encore, est-ce que si vous avez une joueuse blessée, vous avez la possibilité de la remplacer pour une blessure de longue durée?
Oui et non. Parce qu'en fait, non, on n'est pas dans le monde professionnel. La division 2 est professionnelle, pas la N1 fille. Donc, période de mercato et de joker médical, on n'en parle pas officiellement. À côté de ça, une fille peut muter si elle signe un contrat pro. Donc, demain, je pourrais signer une fille en pro, une professionnelle, et puis la faire muter. Donc, c'est une fille qui a pas de contrat encore. Donc, c'est un peu particulier, vous voyez. Donc, j'ai envie de répondre non, mais non, j'ai pas la possibilité. Ça sera en division 2 ou là c'est beaucoup plus structuré, professionnel, il y a des mouvements de joueurs, il y a des voilà.
Est-ce qu'il y a un gap important, Edouard, entre la nationale 1 et la D2?
Complètement. Moi je viens d'un club de Lille où on est monté 3 fois. Je dis bon, j'avais bien sûr pas le rôle. Le premier, j'avais le rôle de supporter. Le deuxième, j'étais un jeune entraîneur. Et puis la troisième, je faisais partie du staff. Mais les 2 fois où on est monté, on est redescendu aussitôt. Puisque monter en D2, c'est déjà compliqué. Et y rester, c'est vraiment dur. Donc là, aujourd'hui, à Angoulême, je pense qu'on est en capacité de monter en division 2. Y rester, non. Non, pas du tout, puisqu'il y a une vraie marche. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus, c'est-à-dire... pas créer une équipe pour monter, surtout une équipe pour exister en D2. Parce que c'est pas le but de monter et de faire changer 10 joueuses pour en mettre 10 nouvelles. Ça marchera pas, ça c'est sûr.
Donc c'est pour ça, Edouard, je parlais de projet sur 3 ans. Parce que,
ouais, ça.
Et parce que c'est compliqué professionnaliser les filles qu'il y a aujourd'hui. D'abord, ils ont un emploi. Deuxièmement, si ça monte et que ça descend après, ils vont se retrouver comment?
C'est ça va pas, ça aura servi à rien. Ça aura vraiment servi à rien. La dynamique du club, c'est pas du tout la volonté du club. C'est vraiment de s'asseoir dans avoir un ancrage, que ce soit local, régional ou même ensuite national. Pour rappeler, historiquement, Angoulême, ça a été en division 1, donc ça c'est d'où ça vient. Ça revient un peu de l'enfer avec les problèmes financiers, c'est ça. Et on veut structurer.
J'allais y venir sur le problème économique. J'allais y venir parce que forcément, quand on parle de professionnel, l'économie, il faut aller chercher les partenaires.
C'est ça. Après, on a un club qui a un beau budget pour un club de N1, mais c'est le nerf de la guerre. En effet, on a la concurrence. Je découvre, mais il y a la concurrence du rugby, la concurrence du foot. Sur le handball, c'est les garçons à la Rochefoucauld, mais on n'est pas en grande concurrence. Mais voilà, il y a un peu tout ça. Et puis, et c'est vrai que c'est l'heure de la guerre. On voit que les clubs en haut niveau, Bourg-de-Péage, Mérignac qui est en difficulté, Celles-sur-Belle qui est pas accédé en division 1, actuellement Villeurbanne en garçon qui est vraiment en difficulté aussi sur le handball. Et c'est qu'un levier financier. Hein. C'est que ce levier-là. Donc, on veut pas se surestimer pour pas aller trop vite sur l'aspect financier, sur l'aspect sportif et tous les autres. Mais on veut surtout pas sous-estimer sur le long terme. C'est ce qu'on dit souvent.
Il y a beaucoup de villes et de communes qui se mutualisent maintenant.
Ouais, ça c'est vrai.
C'est au niveau économique. Quand on prend par exemple le SA15, c'est SA15 Soyo.
Voilà.
Quand on prend le Tech, c'est La Rochefoucauld-Chasseneuil.
Exactement. Là, actuellement, en fille, il y a le club de ATH qui était à Schoenheim, qui vient de monter en division 1, qui vient de s'appeler à Schoenheim-Strasbourg. Voilà.
Et oui.
Qui vient de survivre économiquement, pour aussi se développer. Il y a pas de secret.
Grâce à vous, Edouard, on est entré entre guillemets dans le vestiaire, et je pense que les auditeurs ils auront vous encourager, notamment sur les prochains matchs qui auront lieu à la Grand-Fond. Les matchs se déroulent à 19h ou 20h?
20h le samedi. Et c'est Mios, en effet, le 4 novembre, samedi 4, à 20h.
Et je sais qu'il y a un public fidèle.
Ouais, c'est un public fidèle. En plus, on a même les filles des catégories jeunes qui viennent. C'est assez sympa. Il y a le mélange de générations, de milieux. C'est très sympa. Très simple.
Edouard, on a bien compris à travers tout ce que vous avez dit que vous êtes un homme, que vous êtes un bâtisseur, hein, si on peut le dire comme ça, que vous vous projetez à la fois sur le court terme et le moyen terme, et c'est une bonne vision des choses, que vous nous avez expliqué quelles seraient les difficultés essentielles, éventuelles, à rester en D2 si toutefois le club venait à y accéder. Donc, On sent à travers vos propos que vous êtes un homme de devoir, que vous êtes un fin analyste et un coach écouté. Donc encore une, est-ce que tout ça vous convient?
Ça me convient très bien.
Parfait. Donc on vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre émission. Oui. On vous souhaite le bon vent pour tout ce qui va arriver, et on aura l'occasion de se reparler dans le courant en 2024 pour faire un petit peu un point sur le point du championnat à ce moment-là de la saison.
Ben, avec plaisir, merci à vous.
Merci à vous, Edouard. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Et c'est parti pour un nouveau flash résultat. On va voir ensemble les résultats des clubs charentais ce week-end, en commençant par le football et la Coupe de France, puisque l'on jouait le 6e tour de la Coupe de France avec l'ACFC qui se déplaçait du côté de Bassins sans Gironde face à un adversaire de Régional 3. Les Angoumoisins ont fait le job et l'ont emporté 5-0. Un début de match compliqué quand même pour l'ACFC qui subit un penalty stoppé par Patrick Sincher par la mi-temps, et derrière les Angoumoisins de David Gigel ont déroulé avec notamment deux buts en première mi-temps de Koulibaly, un but également dès les reprises de Barque, et enfin Buisson et Lobo ont permis à la CFC de valider leur qualification pour le 7e tour et surtout de ne pas trembler. Les Angoumoisins seront au tirage national de mercredi. Mercredi justement, un autre Charentais jouera son 5e tour de Coupe de France, puisque Champigny a été repêché suite à un tapis vert face à l'équipe de Périgueux, et Champigny s'est imposé 3-2 contre la formation de Périgueux, et donc Champigny recevra mercredi à 15h la formation du bassin d'Arcachon qui évolue en R1. Donc les hommes d'Alex Zoli ont deux divisions d'écart à combler. Le gagnant de cette rencontre rencontrera lors du 6e tour Rive Droite 33 pour accéder au 7e tour. Il y avait quelques matchs de championnat, notamment au niveau R1, avec la réserve de la CFC qui recevait Boulazac. Victoire des Angoumoisins 2-1, avec notamment un but de Lamoraille et un but de Ben Kémis, une superbe frappe pleine lucarne du milieu de terrain tunisien qui permet à la CFC, à la réserve, de l'emporter après deux défaites consécutives à domicile. En Régional 2, le derby entre Leroy et Merpin a été maintenu avec la victoire de Leroy 2-1. Enfin, en Régional 3, Ruffec s'est imposé 5-3 contre Noyer et Jarnac s'impose à Basso 4-3. En niveau district, le district avait reporté donc la journée complète au week-end prochain. Donc les équipes étaient au repos forcé et joueront le week-end prochain si le temps le permet. On va passer au handball avec la belle victoire de l'Algio Cognac. Hein, l'Algio Cognac qui se relance avec une belle victoire 36-21 contre Uru Narak. Une belle victoire pour Cognac qui menait 20-7 à la mi-temps. Donc voilà, 13 points d'écart à la mi-temps, l'écart était fait. Et l'écart s'est accentué même en deuxième mi-temps. Malheureusement, l'ACH a perdu. L'ACH a perdu contre le leader Bergerac, défaite des Angoumoisines 27-21. En National 2 masculine, l'ETEC s'impose contre Limoges, victoire 33-22 des hommes de Dimitri Goudouche. Et enfin, en basketball, défaite malheureusement de Cognac qui cède en seconde période à la Séguinière, défaite 80-70 pour le Cognac Basket Avenir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau flash résultat. Bonne soirée, au revoir.